Des rabbinim et tout ça. Ça fait 40 ans, elle est toute un peu...
Ma femme, elle a pris la tête. C'est
beaucoup. Allez. Donc, aujourd'hui, c'est Parashat Emor. Donc, pour ceux qui nous écoutent, ce soir, c'est la Hiloula de Rabbi... C'est Pessah Sheni, d'abord. C'est la Hiloula de Rabbi Meir Bar Hanes. C'est la Hiloula de Monsieur Ganem, Binyamin Ben Yosef Ganem. Et c'est la Hiloula de mon grand-père, David Walid. D'accord ? Donc, bon, c'est plein de choses en même temps. D'accord ? Donc, il y aura une petite Seouda ce soir. Alors, la Parashat Emor. La parachate est mort par beaucoup des Kohanim. Est mort, c'est-à-dire dealer. C'est Hachem qui dit à Moshe Rabbeinu. Et donc, notre speed d'aujourd'hui, pour vous situer, comme la semaine dernière, on avait fait un de Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Aujourd'hui, on revient dans nos terrains, dans la Chassidut. On va étudier le Meor Enaim. Vous avez le titre Meor Enaim, c'est le nom de son livre. On l'appelle comme ça, comme toujours. On connaît le Meor Enaim. Meor Enaim, c'est vers la lumière des yeux. Qui a composé le Meor Enaim? C'est un des premiers disciples du Baal Shem Tov. Donc c'est vraiment la première génération de la Chassidut. Il s'appelait Menachem Nachum Tversky. C'est son nom. Il faut le faire pour appeler son enfant Menachem Nachum. Les deux termes de consolation. Ouais. Menachem Nachum Tversky. D'accord? C'est un nom très connu, Tversky. Jusqu'à, il y a un grand psychologue aux États-Unis qui s'appelle Rav Tversky. Il a écrit des livres en anglais, en français d'ailleurs, ça a été traduit. Et il était rabbi de Tchernobyl. D'accord? Fameuse Tchernobyl. D'accord? Qui est l'ancêtre de Grenoble. D'accord? Donc, il était le premier admour de Tchernobyl. Il vivait à Tchernobyl. Il a fondé la dynastie des chassidim de Tchernobyl. Donc, au début, il était un talmid du Baal Shem Tov. À la mort du Baal Shem Tov, il a été un talmid du grand élève du Baal Shem Tov, le Magi de Mezritch. D'accord? Et après, à la mort du Magi de Mezritch, lui-même, il a fondé une chassidoute, qui est la chassidoute de Tchernobyl. Ça fait partie, on va dire, des fondamentaux de la chassidoute. Je m'explique. C'est-à-dire, le Baal Shem Tov, il n'a rien écrit, comme beaucoup de grands maîtres. Hein, même Rabbi Nachman, si ce n'était pas son élève Rabbi Nathan, il n'aurait rien écrit. Donc le Baal Shem Tov, on a de lui que des paroles rapportées dans les livres de ses élèves. Le Magi de Mezritch, son grand élève, il a écrit un petit peu, mais pas beaucoup, il a écrit deux livres. Par contre, les premiers élèves, d'accord, le Noam Elimelech, Rabbi Yochmi Lizensk, le Rabbi de Tchernobyl, tout ça, c'est les premiers grands élèves. Eux, ils ont commencé à diffuser l'enseignement de leur maître. Et c'est au travers de eux qu'on connaît véritablement la pensée, la personnalité, qui était ce Baal Shem Tov. Sinon, on ne saurait pas qui. Et donc, au travers de ces enseignements, on se rend compte qu'il a diffusé un message tellement incroyable pour que ça enflamme des générations et des générations. C'était quelqu'un d'extraordinaire, un peu, qu'on va dire, comme ceux qui ont connu le Rav Raïkin. Il n'y a rien écrit, d'accord? Il parlait tout juste le français, et il a enflammé des générations de juifs français. Ça veut dire que c'est des gens qui avaient en eux une flamme tellement grande qu'ils pouvaient enflammer les autres, d'accord? Eh bien, c'est un peu le Baal Shem Tov, et ici, on va étudier un texte très intéressant du rabbi de Tchernobyl. Vous êtes bon?
David, M. Limiter a raconté l'histoire de Rav Tversky, très bien.
Oui, exactement, c'est celui-là. C'est un grand psychologue américain. Alors, Vayomer Adonai Moshe, Emor el Kohanim ben Aaron, Vamarta aleem, le nefesh lo itama be'amav. Donc c'est l'introduction du premier pasouk. À chaque jour, il a dit à Moshe, parle au Kohanim ben Aaron, les enfants d'Aaron, Vamarta aleem, et tu leur diras, le nefesh lo itama be'amav. Pour une âme, ils ne se rendront pas purs dans leur peuple. Voilà, l'expression est un peu compliquée. C'est l'interdiction pour un Kohen d'entrer dans un cimetière et de toucher un mort. Ok?
Pas impur. Pas impur. C'est dit pur.
Ils ne se rendront pas impurs.
Impur.
Ah pardon, impurs. Ils ne se rendront pas impurs. Loïtama, d'accord?
Oui.
Et l'Agmara Rachid dit, Loïtama Be'amav, que ça veut dire Loïtama Be'amav dans son peuple? Ils ne se rendront pas impurs dans le peuple. Ils ne se rendront pas impurs tout court. Il peut pas rentrer dans une maison où il y a un mort, bien sûr il peut pas aller au cimetière, il peut pas toucher un mort. Ça c'est l'interdiction pour le Kohen, et c'est un issour pour lui. Mais pourquoi dire dans son peuple, Rashi ramène l'agmara, Be'od Shamet Betor Amav, lorsque le mort, il est encore dans le peuple. Ça veut dire qu'il est encore entouré, il y a des gens qui sont autour de lui. Yatsa Met Mitzvah, ce qui exclut un Met Mitzvah. Met Mitzvah, c'est la mitzvah du mort, c'est un mort qu'on trouve abandonné. D'accord? Si on trouve un mort Où que ce soit, alors maintenant c'est beaucoup plus rare. Mais à l'époque, il n'y avait pas tellement de cimetières, les gens ils se baladaient, il n'y avait pas tous les services de sécurité qu'on connaît. Donc il y avait des gens qui mouraient sur la route, et des fois tu trouvais un mort sur la route. Alors le din, il est, c'est une halakha très intéressante, en Eretz Israël en tout cas, que tu trouves un mort sur la route, le mort il acquiert son endroit. Ça veut dire l'endroit où il est, le fait qu'il soit mort là, tu l'enterres là. Alors bien sûr que s'il y a un cimetière de famille, ou si on sait qui c'est, qu'il y a sa famille qui l'attend, bah tu le ramènes à Tel Aviv ou à Beersheba. Mais si c'est un mort inconnu, tu sais pas qui c'est, à l'époque c'était comme ça, on n'allait pas faire le tour du monde pour chercher d'où il vient ce type-là qui est mort depuis 3 semaines. Là où il est, au pied de l'arbre, au bord du chemin, tu l'enterres, tu mets un panneau, etc., tu l'enterres. Là, c'est pour cette raison qu'en Eretz Israël, vous avez des morts un peu partout. Dans le nord, vous avez des tzadikim qui sont enterrés à droite, à gauche, dans les forêts, dans les montagnes. Ils sont morts là-bas, on les a enterrés là-bas. D'accord ?
Dans la paracha avec Réchid, j'avais vu ça. C'est que Hachem, il a créé la terre avant la terre et le ciel. Mais la terre, il a fait jurer à la terre de recevoir, enfin, tout est parti de la terre, de recevoir.
Le mort.
Le mort, quel que soit l'endroit où il se trouve.
Exactement. C'est aussi une des raisons pourquoi le mort, il acquiert sa place. D'accord ? C'est bon ça ? Alors, donc qu'est-ce qu'on voit de là ? On voit que le Kohen, qui est normalement est protégé, qui ne doit pas toucher un mort, il y a une situation exceptionnelle où il peut faire cet interdit-là, entre guillemets, ça n'est plus un interdit, c'est même une mitzvah, de se rendre impur pour enterrer le mort. Et donc c'est ça qui va intéresser le Meoré Naïm, qu'il y a quelques situations dans la Torah où on voit qu'une avéra devient une mitzvah, et pourquoi ? Alors, on en connaît une tous, c'est ce qu'on appelle le Pikuach Nefesh, le sauvetage d'une âme. C'est-à-dire que quand quelqu'un est en danger de mort, oui, on a le droit de tout transgresser pour sauver une vie. Transgresser la cacheroute, transgresser Shabbat, transgresser Kippour, il n'y a rien qui tienne devant le sauvetage d'une vie. D'accord ? Et c'est encore un exemple où ce qui est une avéra peut devenir une mitzvah. D'accord ? C'est-à-dire que Shabbat, transgresser Shabbat, c'est une avéra, ça peut devenir une mitzvah, d'accord ? Quand on doit sauver une vie. La même chose, le maître mitzvah peut devenir une mitzvah pour le Kohen de se rendre impur, d'accord ? Donc c'est ça qui va développer le Meoré Naïm, ok ? D'ailleurs, c'est pas ça arrive aujourd'hui, regardez bien. Les nefesh lo itama be'amar. Donc, c'est bon, ouais. Michael. Donc on commence le texte du Meoré Naïm sur le rabbi de Tchernobyl. Les nefesh lo itama be'amav. Pour une âme, il ne se rendra pas impur dans son peuple. Chez lo itman nafsho ba'avera. Il dit, c'est aussi une allusion qu'un homme, il ne doit pas rendre impur son âme par une avera. D'accord ? C'est-à-dire, c'est vrai que ça, c'est le Kohen. Le Kohen, il a un statut spécial. Et donc, il est tellement kadosh que même un mort, il ne peut pas le toucher. Mais un juif lambda, eh bien, il n'a pas le droit non plus de rendre impur son âme avec une avéra. Be'amav, qu'est-ce que ça veut dire dans son peuple? Piresh Rashi, be'od shamet betochamav. Tant que le mort, il est dans le peuple. Ça veut dire qu'il n'est pas abandonné. Mais s'il est abandonné, eh bien, le Kohen, il sera impur. Pirouche. Be'od shayet serara nikra met. Quand le yetserara, on l'appelle mort. Pourquoi m'ivne shema sito la averot? Parce que le Yetzerara, il incite l'homme à faire des Averot, Shem Klipot, que ça c'est des écorces qui le séparent d'Hachem. Yetzer Tov, tandis que le Yetzer Tov, c'est l'abréviation Nikra Chai, s'appelle vie, parce que c'est le Yetzer Tov, c'est lui qui le rapproche d'Hachem, et à Kadosh Baruch Hu, il est la vie par excellence. Vezeu, et c'est ça qu'on dit, Beod Shamet Betoch Amav. Tant que le mort, il est dans le peuple. Pirouche, be'ot shiat yetzerara yeshno. Tant que le yetzerara est encore là, on ne doit pas s'approcher de la avera. Il va expliquer. C'est un peu obscur le début, mais ça va s'expliquer. Prat le met mitzvah. Ça exclut un met mitzvah. Chez en lo kovrim. C'est quoi un met mitzvah? C'est quelqu'un qui n'a pas de personne pour l'enterrer. Chez mitzvah l'étamé, c'est une mitzvah de se rendre impur. Donc ici, c'est ça qui l'étonne. Que ce qui était une grande avéra pour le Kohen de se rendre impur devient une mitzvah quand il n'y a personne pour s'occuper de lui. Deine, voici, on est à la 5e ligne. Amrou Razal, ils ont dit les Chachamim, Gadol Avera Lishma. Vous soulignez ces trois mots. C'est grand, une Avera Lishma. Une Avera pour Dieu. D'accord? Ça, c'est. D'accord? On est à la cinquième ligne. Et les trois mots du début. Gadol Avera Lishma. C'est grand, une Avera Lishma. C'est bon, Michel?
Oui.
Alors, l'exemple qu'on connaît de Avera Lishma, c'est Esther. D'accord? C'est quoi Avera Lishma? C'est-à-dire, bien sûr qu'une femme juive, elle ne peut pas aller avec un goy. Esther, elle n'était pas concernée parce qu'elle avait été prise de force. Sauf que, quand il est arrivé le moment où il y avait la xéra contre les Bnei Israël, elle a essayé de séduire Achashverosh, et donc elle est allée volontairement chez Achashverosh. Et donc ça, c'est considéré comme une Avera Lishma. Elle a fait une erreur, mais elle a fait pour sauver son peuple. Donc là, c'est longuement discuté, jusqu'à où est-ce qu'on peut faire, etc. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Ok? Et donc, ça s'appelle Avera Lishma. Une Avera pour Dieu. Bon, c'est rarissime comme principe. Sinon, c'est la porte ouverte à tous les courants d'air, hein. Et la Gemara dit, Gadol Avera Lishma. C'est même plus grand. Une Avera Lishma. Lishma, c'est l'Eshem Hashem pour le nom de Dieu. Mi mitzvah shel Lishma que de faire une mitzvah sans kavana. On va dire des choses comme ça. C'est-à-dire, c'est plus grand de transgresser une Avera. D'accord, de faire une faute, mais pour Hachem, plutôt que de passer son temps à faire des mitzvot, mais sans aucune kavana. Ok? Donc c'est un peu paradoxal comme idée, mais la Gemara c'est ce qu'elle dit. Kegon, par exemple, les Halel Shabbat, profaner Shabbat, mitne pikuach nefesh, pour sauver une vie. Ok?
Ah,
maintenant il dit ceci. Oumana Asé, qu'est-ce qu'on peut faire, mais Avera Kazu, d'une Avera comme ça, chez Atzma Dvar Klipa, qui est quelque chose qui vient de l'écorce du mal, Rak, chez Asa Lishma, mais il l'a fait pour Dieu. Il pose une question fondamentale. Il dit bon, je comprends qu'on doit transgresser Shabbat pour sauver une vie. Je comprends que le Kohen, il se rend impur pour un mort qui n'a personne pour s'occuper de lui. Mais malgré tout, ça nous fait quelque chose au cœur. Pourquoi ça m'est tombé sur le crâne, oui, de devoir faire une Avera? D'accord? Il y a des fois, on est obligé de faire une Avera, de téléphoner, de ci, de ça, de prendre la voiture, ou de faire des choses contre notre gré, mais bon, on dit, c'est pour la bonne cause. D'accord? Mais il dit, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe de cette Avera? Pourquoi cette Avera, elle m'est tombée dans les mains? Pourquoi finalement dans le monde, il a fallu qu'il y ait une Avera qui se fasse? Hachem, il a plein de moyens de sauver une personne du danger, et il a plein de moyens qu'une personne, il ait des jambes. Pourquoi c'est le Kohen qui est tombé sur lui? Pourquoi il faut qu'il y ait une Avera qui se crée dans le monde? C'est ça sa question à lui. D'accord? Ça pose une question. Pourquoi est-ce que, Be'ashgacha, il y a une Avera qui doit se faire? C'est ça qui est la question. Regardez, Oumanase, je suis, c'est, voilà, 2, 4, 6e ligne, au milieu de la ligne. Oumanase, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais Avera Kazou, d'une Avera comme celle-là, chez Atzmat Varklipa, qui est en soi-même une écorce. Rak Shasa Lishma, mais on l'a fait, Lishma. C'est l'histoire de crayon tournant. On l'a fait pour Hachem. Ah, cependant. Vous êtes bon dans son questionnement? En fait, c'est un questionnement, on se serait jamais pensé, hein. À la limite, quoi, tu te poses cette question?
Oui.
Moi, je serais très content. Enfin, ça m'est arrivé 2-3 fois d'être obligé de transgresser Shabbat pour un danger ou ci ou ça. Ben, je me sens comme Zorro, quoi. Parce que moi, j'ai pris le téléphone. Il y avait un type une fois, je ne me rappelle pas, il y avait un type, il a un infarctus à la choule. J'ai pris le téléphone. Ouais. Voilà, j'ai pris le téléphone. Pour aller s'amuser, on était même 3 à avoir pris le téléphone. Ben, on était tous contents, quoi. On a sauvé. On a sauvé une vie, c'est une mitzvah.
Ouais.
C'est une tellement grande mitzvah. En quelque part, on est fiers, quoi. On n'a jamais pu faire ça, prendre le téléphone Shabbat. Non, je rigole, c'est pas ça la question. Mais on se dit, on n'a pas de problème, quoi. Ça ne nous dérange pas de transgresser Shabbat pour sauver une vie. La vie, c'est tellement grand que tu te dis, c'est normal, c'est ça. Il dit non. Mais pourquoi? En réalité, tu devrais poser la question. Pourquoi être obligé de manger ta rêve pour sauver sa vie? D'accord? D'accord, c'est la guerre, d'accord, il n'y avait rien à manger, d'accord, j'ai failli mourir, donc j'ai mangé du jambon, mais c'est pas tout le monde qui le fait, pourquoi c'est tombé? Alors regardez, ah! Ouais. Ok. Donc comme d'habitude, c'est du décollage vertical. Hein. C'est même pas à 180 degrés on remonte. Alors on est 2, 4, 6, 7e ligne. D'accord, on va, je vais acheter de la colle pour mettre sur le doigt pour que le doigt il bouge plus là. Ah, cependant, écoutez bien. Shiesh Neshamot, il y a dans le monde des âmes perdues, des morts. Shem Naim Venadim, qui se promènent. Vous savez que normalement, une âme, elle rendait compte à son décès pendant une semaine, puis pendant un mois, maximum un an. Au bout d'un an, tout le monde est tranquille. C'est pour ça qu'on arrête de faire le kaddish au bout d'un an. Parce qu'au bout d'un an, toutes les âmes sont libérées. Elles montent directement dans leur repos, au Olam Haba, etc. Elles s'attachent à Hachem, tout ce qu'on connaît dans les textes. Mais en tout cas, l'âme est libérée de toute punition. Sauf certaines âmes particulièrement nocives, qui ne méritent pas de monter même au bout d'un an. Et sont des âmes volantes, qui attendent ce qu'on appelle leur tikkun, leur réparation. Ok ? Donc on est vraiment dans de la grande mystique. Ve'enam yicholim la'alot, et elles ne peuvent pas monter les shorsham à leur source, à leur racine. D'accord ? Puisque, c'est quoi monter à leur source ? Chaque âme, kaviyachol, elle est attachée à Hachem. Ok ? Et dans le Zohar, on dit que elles sont, chaque âme, elle a sa place. Donc en fait, quand une âme, elle remonte, elle se rattache à l'endroit d'où elle tire la source. Ok ? Alors, on parle bien sûr dans une phase après les dévoilements d'Hachem. Dans l'essence d'Hachem, il n'y a pas de place, il n'y a pas de devant, derrière, en haut, en bas. Par contre, quand Hachem il a commencé à se dévoiler, d'accord ? On revient à ce problème des sirotes, ce problème que la description des sirotes, c'est comme le corps humain. Oui ? Vous savez, dans le Patar Eliyahu, il y a le bras droit, ça représente le Chesed, le bras gauche, ça représente le Din, etc. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai, dans la description dans le Zohar, on image Kaviyachol, le dévoilement de la Shrina, comme un être humain. Si Hachem, il a créé l'homme, de cette manière, ça représente, dans des mondes spirituels, des forces spirituelles, qui s'expriment pour un homme, par sa force du bras droit, par la force du bras gauche, les bras, la tête, etc., les trois, les deux hémisphères cérébraux et le cerveleux, c'est Chochma Binada'at, etc., c'est les trois sphères intellectuelles. Bon. Donc, à partir du moment où on dit ça, donc il y a des âmes qui tirent leur source du bras droit, d'autres du bras gauche, etc., et c'est pour cette raison que vous avez des gens qui seront plus chesed, des gens qui sont plus din, des gens qui sont plus intellect, etc., ça dépend d'où ils tirent la source de leur âme. Ok, bon, c'est pas très compliqué, mais c'est des choses, c'est des principes qu'on va connaître. Maintenant, il y a des âmes qui voudraient bien retourner vers le bras droit ou vers le bras gauche, mais interdit, la porte est fermée. D'accord ? Et il y a en haut, comme j'ai entendu d'un copain, des réparateurs de portes. Des gens qui réparent les portes pour permettre aux âmes perdues de pouvoir remonter et franchir la porte. Donc lui, il dit... Hein ? Ah oui, ah, c'est des gros trucs là. Ouais, c'est des très gros trucs.
Un gâteau tarif,
hein. Ah non. C'est... Mais entre toi et moi, il y en a qui font des grosses avérotes. Alors la Gemara elle parle des grosses avérotes. Chilou Lachem, profaner le nom de Dieu. Ça veut dire que quelqu'un qui est religieux et qui a un comportement qui est incohérent par rapport à ce qu'il est, donc il profane le nom de Dieu, il entraîne les gens avec lui. Fauté au Mahaté, ceux qui font fauter les autres aussi. Ce qui entraîne les autres. Donc c'est pour cette raison que le Lashon Hara fait partie des grosses patates chaudes. Parce que dans le Lashon Hara, c'est pas tu manges ton gâteau à McDo tranquillos. Non, tu amènes les gens, tu amènes 10 personnes autour d'eux, tu commences à déblatérer sur Pierre-Paul Jacques, et puis ça fait 10, c'est 10, ils vont faire 100, ils vont faire 1000. Ça veut dire, c'est bête le Lashon Hara, c'est un truc ridicule. Mais tu casses un homme, tu vois. Et puis c'est une tâche qui reste indélébile. Tu as beau l'enlever, on t'a parlé de M. Bensoussan ou M. Benkemoun qui avait fait ça. Tu as beau dire, mais non, c'est pas vrai. Après, il dit, bah, peut-être c'est vrai, quand même. Il n'a pas fumé sans feu, s'il m'a dit qu'il l'a vu, etc. Oui. Ok. D'accord. Ouais. Toujours, je rappelle cette histoire. Moi, il y a un type bien, hein, c'est un copain en plus. Un religieux et tout. Oui. Il y a de nombreuses années, il m'a parlé du mal d'un rave. Pas un rave vivant. D'un séfer. Et il m'a dit, oh, ça, c'est un séfer bidon. D'accord. c'est un truc pour les bébés, ça. Sam, c'était pas méchant, quoi. C'était un avis qu'il donnait sur un CFR. D'accord ? J'arrive pas à me l'enlever de la tête, cette histoire. 40 ans plus tard, j'arrive pas, quand je prends ce CFR, ça reste, il m'avait tamponné que ça, c'est un CFR, pour, et c'est un bon CFR. Il m'avait dit, non, c'est un CFR pour les bébés, c'est du truc trop simple. Et je lui donnerais des claques, pourtant, c'est mon ami, je l'adore. Hein. Mais si je pouvais, je ferais un feedback pour enlever ça. On peut pas enlever une tâche. Une chose qui a été marquée, tu l'enlèves plus. Tu l'enlèves plus, c'est très compliqué. C'est pour ça que le lâcher en arras, c'est très grave. D'accord ? Avec des, je n'en veux pas, c'était pas méchant ce qu'il a dit, mais c'est juste pour donner un exemple, comment ça peut salir. Donc maintenant, tu me disais, les averot, il y a des grandes averot. Et il y a des tzadikim qui s'occupent du tikkun de Neshamot. Les grands mekoubalim, ils s'occupent du tikkun de Neshamot, de la réparation des âmes. C'est pas notre truc, c'est pas pour nous. Nous, on nous le donne une fois par an. D'accord ? À Birkat Ha'ilanot. C'est d'ailleurs le thème de l'histoire que vous avez dans Torah Box de cette semaine, vous le lirez. Là, voilà. La bracha qu'on fait sur les arbres, c'est parce qu'on sait qu'il y a des gilgoulim, dans des gens qui sont mis de galgal, qui ne méritent pas de monter. Parce que le gilgoul, c'est quand on ne monte pas. Quand on a fini, on monte et on reste tranquille. Le gilgoul, on se dit, c'est quoi, ton affaire n'est pas réglée, tu vas passer 2-3 millénaires dans une pierre, dans un arbre, parce qu'après, le temps n'a pas beaucoup de... D'accord ? Alors, si t'as un peu de chance, tu passes dans une vache, on lui fera la shrita, on la mangera à Shabbat. Si t'as moins de chance, tu vas tomber dans une fleur. Bah, la fleur, il faut trouver un bon juif qui a sur la bracha de Bessamim. Et si t'as pas beaucoup de chance, tu vas tomber dans un caillou, parce que pour faire une mitzvah avec un caillou, il faut se lever tôt, ou alors, il faut faire recouvrir le sang, etc. Donc, il y a des degrés, c'est marqué tout ça dans le Zohar. Maintenant, il y a des âmes qu'elles ont aucune chance. Elles se baladent, d'accord, et personne s'occupe d'elles, parce qu'elles ont fait des trucs suffisamment lourds pour que personne s'occupe d'elles. D'accord, elles ont fait trop d'avérotes. Il y a des... Bon, maintenant, on connaît plus des gens comme ça, mais des délateurs, des... Je ne sais pas ce qui se passe avec Jésus, là. Parce que c'est un juif aussi. Hein. Et il y avait un rave, on sait que Rabbi Yehuda Ftaya, il y en a des rabbinim qui ont essayé de faire des tikkunim pour Shabbat Haïtzvi, des gens comme ça, le faux métis Shabbat Haïtzvi, qui avait enterré plein... Attirer plein de gens derrière lui qui se convertit à l'islam. C'est un faux messie, Shabbat Haïtzvi. Ouais. Jésus, des gens comme ça. Bon, mais ça, c'est du lourd. Il ne faut pas s'approcher de ces gens-là. Mais il y a des grands tzadikim qui ont essayé de faire des tikkunim pour ces gens-là. D'accord ? Mais ce n'est pas notre problème à nous. Nous, on fait notre tikkun à nous, ce qu'on peut essayer de faire. Enfin, je ne dis pas comme ça, faire du tikkun, en fait, aider les âmes de notre famille, des amis, etc. On doit faire. Quand on fait des mitzvot, ouais, le Pele Yoetz, il a dit que quand un homme. Chaque fois qu'il fait une mitzvah, avant de faire une mitzvah, il dit, je fais la mitzvah pour le mérite de l'âme de mes parents. Chaque fois. Bon, c'est un peu lourd comme ça. Mais on peut le faire de temps en temps. Que quand on fait quelque chose, c'est un mérite. De toute manière, on n'a pas besoin de le dire. Hein. Parce que c'est, toutes les mitzvot qu'on fait, ça rejaillit sur nos parents. S'il n'y avait pas nos parents, on ne serait pas là. Donc quelque part, c'est par leur mérite, il leur revient. Donc on les aide tout le temps. Et ils ont, eux, on va dire nos parents, ils n'ont pas besoin, ils sont déjà bien tranquilles, mais chaque fois qu'on leur donne du mérite, on les élève en haut. Parce qu'en haut, ça continue à s'élever. C'est pas qu'ils sont des âmes perdues. Ils ne sont pas perdus, ils sont déjà en haut, mais ça leur permet de s'élever. Revenons à nos moutons. Donc il dit maintenant, il y a des âmes qui ne peuvent pas monter. Ok ? Vous êtes bons ? Oui. Regardez bien. On est 2, 4, 6, 8e ligne. On connaît qui vont faire des cauchemars cette nuit. Vous êtes bon ? Ou bien mitzvah, et avec une mitzvah que quelqu'un ferait pour eux, on ne peut même pas les faire monter. Parce que je vais me dire, oui, celui-là c'est un grand rachat, j'ai un tonton, je ne veux pas dire ce qu'on a tous des tontons, tonton je ne sais pas quoi, tonton Yitzhak, que c'était vraiment un dur, je vais faire des mitzvot pour lui, ça ne marche pas. La mitzvah ne peut pas l'aider. Chez En Laem Kohar, parce qu'ils n'ont pas la force spirituelle, l'itkalel be mitzvah, de s'associer avec une mitzvah. Ils sont loin des mitzvot, d'accord ? Même ça, je ne peux pas les aider. Je ne peux pas dire, je vais faire de la zaka, du tehilim, comme on dit. Ça ne marche pas pour eux. Ils sont à des millions de kilomètres spirituels des mitzvot. Donc, je ne peux rien faire. Rak be avera. Il n'y a qu'une avera. Ils étaient tellement proches des averot que pour récupérer ces gens-là, il n'y a qu'une avera. Ils sont proches de la avera. Quand ils voient une avera, tac, ils se collent à elle. D'accord ? Parce qu'en bon, ça, en vérité, il y a plein de paramètres qu'il faudrait rajouter. Mais en vérité, même après la mort, l'âme, et ça c'est la Gemara qui le dit, mais il faut rajouter dans le Zohar, l'âme, elle s'attache aux choses qu'elle émet de son vivant. Même dans l'âme Abba. D'accord? Et donc, quand quelqu'un, il émet la Averot, il s'attache aux choses mauvaises, même dans l'âme Abba. Donc, ces gens-là, c'est des âmes perdues. On essaye de faire des mitzvot, mais ils s'attachent pas aux mitzvot. C'est pas leur truc, ça, ils se collent pas à la mitzvah. Ils ont pas les anticorps, là, qui permettent de se coller à la mitzvah. Par contre, tu leur donnes une avéra, clac, ils sautent dessus. Ah, moi, je voudrais bien les aider, mais je vais pas faire une avéra pour les aider. Comment je peux faire? Ah, c'est pour ça qu'Hachem, il te met dans la main une avéra positive, une avéra lishma. Et là-dessus, ils sautent dessus, et ça permet de les aider. Ben, avéra kazé, que, on leur donne, vous me suivez là?
Oui, oui, bien sûr.
Ben, avéra kazé, une avéra comme ça. Shieshmi sheoved Hashem, qu'il y a quelqu'un qui sert Dieu. Vesholchin lo isurin, on lui envoie des épreuves. Veno yachol avodat Hashem, et par les épreuves, il a des maladies, il n'arrive plus à servir Dieu. Itbarach. Umuchachim le chalel Shabbat, et on est obligé de profaner Shabbat bishvilo. Ouais.
À cause de lui.
Pour cette personne. Nimtsa, ça se trouve, kshemechalel Shabbat, quand je vais moi profaner Shabbat, d'accord? Yored de la clipote, je descends vers les écorces. Ça veut dire je m'attache au mal quelque part. Ah d'accord, c'est une mitzvah, ils s'en disent. D'accord, c'est une mitzvah. Mais c'est quand même pas une mitzvah
petit, quoi.
Sympathique. Ouais. Tu fais une avéra, tu as pris la voiture Shabbat, tu as mangé ta rêve. Oui, oui, mais c'est une mitzvah pour Dieu. D'accord, d'accord. Ce type de mitzvah pour Dieu, pourquoi ça existe dans le monde? Rak chez Osezot Lishma. J'ai fait ça, l'Hashem Shamaim, pour Hashem. Ou basé grâce à ça, Ma'ale otan aneshamot. J'arrive à faire remonter des âmes, d'accord? Ces âmes qui sont insolubles, qui sont insolvables, qu'on ne peut pas les sauver. C'est pas vraiment le bon mot, mais, d'accord? Qu'on n'arrive pas à les réparer, et on ne peut les réparer que par une avera lishma.
Shem kerovim.
Veze nikra, et c'est ça qu'on appelle met mitzvah. Un met mitzvah. La mitzvah pour le mort. D'accord? Alors, en réalité, c'est des choses qu'on choisit pas. Ok? Ça n'existe pas une situation où je vais créer ça. C'est simplement si ça te tombe dans la main. Tu peux pas dire, moi, je sais ce que je vais faire. Je vais monter à l'Himalaya, d'accord? Sans vivre et sans manger. Et donc, je serai en situation de danger de mort et je pourrai manger ta rêve et faire ça. Ça n'existe pas, ces histoires-là. C'est si ça te tombe la main. Je sais pas si ça vous est tombé de faire une avéra. Une avéra pseudo-mitzvah, enfin une pseudo-avéra de mitzvah, d'accord, transgresser le Shabbat ou la kashrout, mais en tout cas, le jour où ça vous arrive, sachez que si ça vous est tombé dans la main, c'est qu'on vous a donné la possibilité de. Rotzelomar, avéra chez une mitzvah, met mitzvah, ça veut dire que c'est une avéra qui est une mitzvah, chez Ilishma parce qu'elle a été faite pour les Shem Shamaim, chez En Lokovrim, c'est ça qu'on avait dit, un met mitzvah qui n'a pas quelqu'un pour l'enterrer. Donc met mitzvah, Met égale Avera, comme on a dit en haut. Le Yitzhara, on l'appelle Met. Donc Met Mitzvah, c'est une Avera Mitzvah. Chez En Lokovrim, qui n'a pas quelqu'un pour l'enterrer. C'est pourquoi? Parce que toi, tu le fais pour quelqu'un, une âme, qui n'avait personne pour l'enterrer, c'est-à-dire pour la remonter à sa source. Comme il a dit Charles, de la même manière que le corps, quand on le met dans la terre, ça fait remonter à sa source, parce que la source du corps, c'est la terre. De la même manière, l'âme, on doit la faire remonter à sa source, d'accord, vers Hachem, et on ne peut la faire remonter que par quelque chose auquel elle adhère. Et ce qu'elle adhère, c'est une avera. Rotzelomar, chez En Lanchamot Anal Kovrin, ces âmes-là, suscitées, elles n'ont pas quelqu'un pour l'enterrer. C'est-à-dire, Deinu le Alotam, les faire monter, ou le Gonzam, et les rentrer, Beshoresh Elion, dans leur source supérieure divine. Rak aliede avera kazu, que avec une avera. D'accord? Donc en réalité, et c'est intéressant ce qu'il dit, c'est que de la même manière qu'il y a une mitzvah d'enterrer le corps, parce qu'enterrer le corps c'est le faire remonter à sa source, il y a également une mitzvah à enterrer l'âme, c'est-à-dire la faire remonter à sa source spirituelle. D'accord? Et c'est ça qu'on s'efforce de faire quand on fait le kaddish, pendant l'année, quand on fait des mitzvot, etc. Et comme je vous l'ai souvent dit, et comme il dit Rav Obadia, en tout cas c'est le Pelé Yoetz qui dit que l'apport qu'on donne au Niftarim ne s'arrête pas au bout d'un mois, au bout d'un an. Toute la vie, on continue à aider les Niftarim à s'élever. Ok? Et en réalité, s'élever, on peut comprendre. Comment on peut s'élever si quelqu'un, son chorech, bon, c'est des images hein, que je dis, donc il faut pas... Si quelqu'un, on a dit tout à l'heure que son chorech, c'est le bras droit, d'accord, la sphira de Chesed, tu peux l'élever plus parce que en réalité, le bras droit, spirituellement, c'est encore plus haut, c'est un endroit dans le ciel où il n'y a ni bras droit ni bras gauche, c'est l'essence d'Hachem, c'est ça la source de tout. Ok, donc c'est pour ça qu'il y a, des degrés même dans les mondes spirituels. Veiné. Vous êtes bon? On est 2, 4, 6, 7 lignes avant la fin. Et nous, yachol, le'alotan, le'alot, on ne peut faire monter rak otan neshamot, que les âmes, shem krovim le shorjo. Ça, c'est un nouveau point. Tu ne peux faire monter que les âmes qui sont proches de ta racine. Ça veut dire que, vous rappelez, on avait parlé plusieurs fois. Pourquoi on a des copains, il y a des gens avec qui on s'entend très bien, et dans le sens où il y a comme une forme de c'est fusionnel l'amitié, une attache. Mm-hmm. On est copains avec tout le monde. C'est-à-dire, par exemple, sur cette table, on est tous copains, oui, mais il y a des gens avec qui on est proche, quasi fusionnel, d'accord? Pourquoi? On ne sait pas pourquoi. Il y a des gens comme ça, il y a une approche avec eux. On explique dans les Sfarim que c'est parce qu'on est du même Shoresh. On est de la même racine d'âme. Et les racines d'âme se reconnaissent entre elles. Eh bien, il dit que de la même manière que du vivant, on a des affinités avec les gens avec qui on a le même Shoresh, eh bien, après la mort, on ne peut s'occuper d'âme que de celles qui ont le même Shoresh. Vezehu, et c'est ça qui est marqué dans la suite du Kohen. Quand on dit le Kohen, il devra se rendre impur, ki im lesh'ero akarovelav. Il ne peut se rendre impur que pour ses proches. Puisque le Kohen aussi, il doit se rendre impur, à part pour le maître mitzvah. Il a une mitzvah de se rendre impur pour son père, sa mère, son frère, sa sœur, son fils, sa fille, sa femme. Les sept proches. D'accord? Donc les sept proches, ça signifie la proximité d'âme. Ok? Elav. Akarovelav. Oui, parce qu'en réalité, si on est proche de gens familialement, oui, bien sûr que c'est biologiquement, génétiquement, à l'ADN, tout ce que vous voulez, mais en réalité, on a expliqué plein de fois que ça n'a rien à voir. Que mon frère et moi, j'en ai pas, donc je peux parler, mais c'est vrai qu'on peut, ma soeur et moi, on a le même père et la même mère, mais en réalité, ça n'a rien à voir. C'est physiquement qu'on a le même père et la même mère. En vérité, elle, c'est une âme B12, moi, je suis une âme C24, d'accord? Qu'Hachem, il a mis dans les corps que nos parents ont formés, ok? Mais on est frères de corps, frères et sœurs de corps, mais pas frères, même avec nos parents, d'accord? Et ton père, c'est une âme W26, et toi, tu es une âme B3 de tel tiroir, pas forcément. On n'est même pas forcément du même Shoresh, ok? Simplement, on est liés, mais bon, peut-être... Je sais pas, je vais peut-être un peu loin si on n'est pas du même chourage. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que si Hachem, il nous a mis proches familialement, c'est qu'on a une proximité d'âme. D'accord? Bon, peut-être du même chourage, peut-être même. En tout cas, il y a une proximité. Maintenant, ici, il dit, c'est pour cette raison que le Kohen, il va se rendre impur avec ces âmes-là de sa famille, parce que c'est du même chourage. D'accord? Donc oui, c'est pas ce que j'ai dit exactement. Donc Mistamak, c'est du même chourage. C'est pas, ce que je veux dire, c'est que, on n'est pas l'émanation de l'âme de ses parents, voilà ce que je voulais dire, hein, d'accord? On n'est pas l'émanation de l'âme de ses parents, mais en tout cas, il y a une proximité, voilà. Oui, Mistama que... Bon, je sais pas, ça c'est des choses que je maîtrise pas. Je sais pas si des parents... je sais pas si un père et une mère qui sont, par exemple, du Shoresh du Din, ils peuvent avoir un enfant du Shoresh du Chesed, je sais pas, des choses, je sais pas. Peut-être ça va être marqué dans le Zohar, mais je sais pas. Je m'en renseignerai, je vous dirai.
Il pourrait, pour la sœur nixer des vierges, il peut s'en rendre.
Oui.
Et de
parce qu'elle est plus Cohen. Non, après, je sais pas. Ouais, c'est une bonne question. Je sais pas.
Elle est plus vierge, c'est fini. Donc,
parce qu'elle est mariée, c'est plus vierge. Ouais. Elle est mariée. Si elle est mariée, donc, maintenant, elle s'attache. Il ne doit pas se rendre impur. Voilà ce que ça veut dire. Ouais. Il doit pas se rendre... Sauf si elle est maître mitzvah. Si elle est mitzvah. Mais il ne doit pas se rendre impur pour elle parce que maintenant, elle est partie avec Bet Zoussan. Elle n'est plus Cohen. Ou la Achin, ou Maale, Kim, les Shura Korovela. Ou la chine ou maale ou la chen, c'est pour ça. Et c'est pour cela. Ouais, j'ai une erreur. Ou maale ou tam. Il est imo. Ah oui. Alors là, bon, il s'est marqué, il doit se rendre impur pour son père et sa mère. Oui. Il dit, Umaaleotam, il doit monter les âmes desquelles il est proche, les Imo, pour sa mère. Alors bon, là c'est vraiment c'est une lecture à un second ou un troisième degré. La mère, il dit, Utora Sheba Alpe. C'est la Torah orale, la Mishnah, la Gemara, comme on voit que Isha Jerimot Yasserenu, comme un homme que sa mère lui fait des reproches. Ou la vivre, ou bien pour son père, Ainu Torah Shebirta. Ça c'est la Torah écrite, chez Kemo Av, que la Torah écrite c'est comme le père, Amiaseret Benu Dere Remez, qui reprend son fils par des allusions. Alors ici, bon, c'est complètement une autre branche. Dans la possibilité pour le Kohen de se rendre impur, d'accord, avec tout ce qu'on a expliqué, etc., tout ce que ça sous-entendait, la Torah elle nous dit que le Kohen il sera impur pour le père et la mère. Ça veut dire quoi, pour le père et la mère? Il dit qu'il doit ramener ses âmes vers le père et vers la mère. Le père et la mère, c'est la Torah écrite et la Torah orale. Et il dit pourquoi? Parce que la Torah écrite présente ses enseignements de façon allusive, comme le père, qui en général a une relation avec ses enfants allusive, c'est-à-dire dit des têtes de phrases, alors que la mère, c'est plus la Torah orale. La Torah orale est plus explicite, comme une mère qui est beaucoup plus explicite dans sa relation avec ses enfants. En règle générale, c'est comme ça. Pas toujours, hein, mais comme on sait qu'il y a des femmes qui ont des âmes masculines et des hommes qui ont des âmes féminines. D'accord? Donc ça, c'est connu depuis longtemps. En tout cas, voilà, il dit « Raka Torah Shebirtav Enam Mefareshet Dvarim » La Torah écrite n'explique pas ses paroles « Rak Derer Remez » que par allusion. « Vezehu » C'est pour ça qu'on dit dans Michelet « Shema Medi Moussa Ravicha » Écoute mon fils, la morale de ton père. « Aïnou Derer Remez » C'est ce qu'on te donne par allusion. « Ve'al Titoch Torah Temecha » Et ne t'éloigne pas de la Torah de ta mère. Shumore ou Melamedet Baeretev, qui te donne des enseignements très clairs. Car la Torah chez Baal Pe, Mefaresh et Divret Torah, chez Birtav Chasaka, bon, là il manque la fin de la phrase. En fait, c'était un texte dont il manque la fin de ce texte-là, dans le livre même de Maorénaïm, dans le livre original. En tout cas, voilà, la fin est un peu obscure sur ce qu'il veut. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la première partie, où il expliquait quel est le sens d'une avera lishma, quel sens mystique on peut donner à faire une avera. D'accord? Donc ça nous ramène à des choses auxquelles on n'est pas habitué à vivre comme ça, on n'est pas obligé d'avoir ça dans son quotidien. Hein. Nous, on doit faire nos mitzvot, etc. On n'est pas obligé de toujours penser aux morts et aux âmes, etc. Mais bon, savoir que c'est quelque chose qui existe et que on doit s'occuper d'abord de notre propre âme, ça c'est certain, avant de penser à la réparation des âmes de nos proches. D'accord, parce que c'est notre tikkun, c'est à nous en premier, d'accord. Et après, il faut savoir que tous nos actes, ils ont des répercussions sur nos ancêtres, et parfois, même sur des âmes, on peut aider une âme qui n'a même pas de rapport avec nous, ou un rapport vraiment indirect, par les mitzvot qu'on fait, et parfois même par une avera qu'on ferait éventuellement. Bon, voilà, c'était un texte tout à fait particulier, mais je trouvais que c'était intéressant parce que ça... C'est une autre approche de la réalité. Oui, cher Manu.
Tu fais un lien avec l'impureté des morts?
Avec l'impureté des morts?
Non, j'ai un même petit truc.
Tu sais, on dit souvent, tu vas pas au cimetière.
Pourquoi on va pas? Non,
tu vas pas au cimetière sur les tombes comme ça.
Non, on va, on peut aller n'importe où.
L'impureté des morts.
Non, ça n'existe pas, ça. Non, il n'y a que le Kohen. En Israël, il n'a pas de problème de l'impureté des morts. On peut être impur toute la journée si on veut. On n'est pas obligé d'être pur. On doit être pur quand on va au Beit HaMikdash. Si pour les Chagim, c'est marqué, on doit être pur. Mais quelqu'un qui travaille dans la Chebra, c'est une grande mitzvah.
Il y a une paracha où ils disent tu ne te rendras pas impur et vous ne mourrez pas à cause de votre impureté.
Ah, mais ça, c'est les Kohanim.
C'est que les Kohanim, ça?
Que les Kohanim, parce qu'ils ont un statut spécial. Mais en Israël, il n'a pas d'interdit de se rendre impur toute la journée, s'il veut. Non. C'est pas.
Il y a quelqu'un qui s'occupe d'un métier. Il peut se poser la question, pourquoi celui qui tombe sur le nez, là, il...
Mais c'est ça.
Oui. Non, mais c'est lui qui s'est occupé.
Eh ben oui, ça veut dire que c'est lui qui est en relation avec ce maître-là. Sinon, voilà. De toute manière, toute chose qui t'arrive, tu dois dire, si Hachem me l'a envoyé dans les mains, c'est que ça est en relation avec moi. D'accord? Ça, c'est pas toute chose qui tombe dans tes mains. Chaque chose, une bonne chose, une mauvaise chose, une chose plus difficile, Hachem il te le met dans les mains, c'est que ça a une relation avec toi.
C'est d'accord. C'est logique,
mais bon, hein, ça, en réalité, toujours pareil, c'est dans un deuxième temps. D'abord, tu fais ce que tu dois faire. D'accord ? Tu le fais bien et tu fais ce que tu dois faire. Après, si tu as un peu de temps, tu réfléchis pourquoi moi, pourquoi comme ci, pourquoi comme ça. Mais tu ne vas pas passer ton temps à. Et sinon, tu ne fais plus rien. Ah, mais pourquoi moi ? Pourquoi ça m'est tombé sur moi qu'il faut que je prenne la voiture pour aller l'aider ? Pourquoi c'est pas un autre ? Allez, fais, vas-y l'aider, après on discute pourquoi c'est toi. Si ça, on te demande. Tu vas commencer à réfléchir. Ah, mais pourquoi moi ? Sur les gens, ils disent pourquoi moi ? Ça, c'est Calimero, pourquoi moi ? Bon, allez, Guy Chavez !
C'est comme un peu dans la